rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre dernière émission de l'année pour vous présenter nos derniers coups de cœur et vous donner de bonnes idées de lecture. Aujourd'hui, Frédéric vous recommandera deux très beaux romans, L'âge de détruire de Pauline Peyrade, Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Bélaisy. Aurore a choisi de vous parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Et pour la première fois, nous accueillerons, en fin d'émission, un lecteur assidu de nos bibliothèques, Manu, qui va nous parler d'une BD, Les réfugiés climatiques de David Ratt. Pour ma part, je vais vous présenter deux romans, L'hôtel des oiseaux de Joyce Maynard et La colère et l'envie d'Alice Renard. Et je vais commencer avec L'hôtel des oiseaux. La vie de Johan est marquée par deux drames. Le premier, enfant, quand sa mère disparaît dans l'explosion d'une bombe et qu'elle doit fuir, changer de vie, de nom, auprès de sa grand-mère. Le second, quand adulte, mère et artiste reconnue, elle perd son mari et son enfant dans un accident. Rebaptisée Amélia, elle envisage de se suicider, mais y renonce et prend un car sur un coup de tête et se laisse mener par le hasard et de sa destination errante, un hasard qui la conduit en Amérique centrale. Parviendra-t-elle à se reconstruire? C'est toute la question de ce 11e roman de Joyce Maynard, un roman sur la résilience, les hasards de la vie et la beauté de la nature. Elle va trouver refuge dans un hôtel nommé l'Hôtel des Oiseaux, tenu par une dame à la beauté mystérieuse, immédiatement attachante et fascinante. La demeure est située au pied d'un volcan et au bord d'un lac, entourée de fleurs et d'oiseaux. C'est un lieu exotique, hors du temps, où elle va se trouver en accord avec elle-même. Le chagrin s'estompe dans ce paysage de cartes postales et contre toute attente, elle va se recréer un foyer dans cet hôtel, comme dans son intériorité. Amélia va faire plusieurs rencontres déterminantes qui vont changer sa façon de voir les choses et surtout l'occuper. D'autant que l'hôtel tombe en ruine, elle va être accaparée par les travaux à entreprendre. Il y a de très beaux passages dans les relations avec les hommes qu'elle rencontre. Joyce Maynard nourrit son récit d'une collection de plein de petits récits de vie, anecdotes et portraits qui racontent la vie du village. J'ai été très emballée par le dynamisme des histoires qui s'entremêlent. Ce roman a suscité la polémique aux États-Unis, comme elle le raconte en postface. Son éditeur, qui la suit pourtant depuis de longues années, a refusé de la publier pour cause d'appropriation culturelle. Or ici, c'est une Américaine qui parle d'une Américaine dans un pays qui ne sera jamais cité, mais que l'on peut supposer être le Guatemala, puisqu'elle le connaît bien et y possède une maison. Cette controverse est plutôt étrange, car l'Hôtel des Oiseaux est très romanesque. On savoure le récit des 40 années de la vie de notre héroïne. C'est un roman envoûtant, à la prose lumineuse, qui diffuse une chaleur communicative, et on en redemande. Maintenant, on va parler de L'âge de détruire, grâce à Frédéric.
L'âge de détruire, c'est le premier roman de Pauline Peyrade, qui est déjà connue comme dramaturge. Elle a fréquenté plusieurs écoles européennes d'art dramatique et maintenant elle donne des cours à l'ENSAT à Paris. Alors, L'âge de détruire, c'est l'histoire d'Elsa qui a des relations assez difficiles avec sa mère. Sa mère la maltraite, mais en même temps, elle l'aime. J'avoue que tout le long de la lecture de ce texte, je me suis demandé sur quelle terrible catastrophe allait déboucher ce tête-à-tête étouffant entre une mère toxique, tyrannique, violente et sa fille Elsa. La mère vient d'acheter un appartement et l'enfant arrive dans un espace nouveau qu'elle n'a bien sûr pas choisi. Elle va devoir s'adapter à une nouvelle chambre, un nouveau quartier, une nouvelle école. C'est peut-être ce qui caractérise l'enfance, accepter des choses qu'on n'a pas choisies. L'écriture à la première personne de ce roman, sensible et sensuelle, rend parfaitement bien les états d'âme d'une enfant réduite au silence à cause d'une mère abusive et égocentrée. Une mère qui détruit chaque jour un peu plus sa fille. C'est un texte fort et puissant qui dit toute la violence familiale. Une lecture en apnée dont on sort épuisé tandis que les dernières lignes nous mettent à terre. Magnifique. Je passe la parole à Aurore.
Merci Frédéric et bonjour à tous. Alors moi, j'ai eu envie de vous parler de Hunger Games. Aujourd'hui, le dernier sorti au cinéma et en livre, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Parce que j'avais envie de mettre en évidence en fait, la puissance du cinéma dans la création artistique et littéraire. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la trilogie originelle des Hunger Games, peut-être.
Que le premier tome, pour ma part.
Non, pas pour moi, non.
Mais bah, le premier tome, c'est déjà pas mal. Mais je vais commencer par là, et puis je reviendrai bien sûr sur le film actuel ensuite. En fait, la trilogie Hunger Games originelle, elle est écrite à la première personne du singulier, et elle est écrite au présent. C'est Katniss Everdeen, notre héroïne, qui raconte. Et dans chacun des trois tomes, le lecteur n'a que son point de vue. La vision du lecteur est donc restreinte à celle de Katniss, et elle est vraiment ancré dans l'action et dans le présent. C'est ce qui fait que c'est un roman qu'on dévore. Bon, pour ma part, moi, j'ai dévoré les trois tomes, fallait pas qu'on vienne m'embêter pendant que j'étais en train de les lire. Mais on est pris dans l'histoire et dans les événements tragiques qui chamboulent la vie de Katniss, la moisson, son volontariat pour les Hunger Games pour remplacer sa sœur, et puis tout ce qui s'ensuit jusqu'à la fin du tome 3. Et si on s'en tient au roman, du coup, on passe à côté de tout ce qui se passe au Capitole et que Katniss ne voit pas, en fait, puisque c'est que son point de vue qui est mis en valeur. Et c'est là que le cinéma, je trouve, a fait un travail formidable. Alors, on peut critiquer les films sur d'autres points, mais... Et moi, je trouve que sur ce point-là, ils ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Il élargit le champ de vision, en fait.
Absolument. Donc, à ceux qui ont vu le film, bah, souvenez-vous des scènes où on voit l'envers du décor de l'arène, où on voit toutes les technologies qui se cachent derrière l'arène, le tactile, la 3D. On voit plusieurs techniciens autour d'une sorte de dôme virtuel, où ils exécutent les ordres du haut juge. Et voilà, c'est le cinéma qui a inventé les coulisses de ces Hunger Games-là. Et ce sont des détails du coup qui n'existent pas dans le livre, mais que j'ai trouvé, enfin personnellement, très pertinents et qui s'ancrent naturellement dans l'histoire de Suzanne Collins. Donc, je ne sais pas si Suzanne Collins avait une autre façon de faire en tête ou si elle avait réfléchi en fait à comment étaient ces coulisses-là au moment où elle a écrit Hunger Games. J'avoue que j'ai pas fait de recherche spécialement pour savoir si elle le dit à un moment donné dans un article, mais en tout cas. Voilà, le cinéma a inventé un autre pan de cette histoire des Hunger Games, et l'a complété et l'a enrichi. Et donc vous allez me dire quel rapport avec le nouvel opus, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Eh bien, pour l'avoir lu aussi, le procédé narratif est différent déjà. Le livre est écrit à la troisième personne du singulier, et le point de vue reste quand même interne. On suit Coriolanus Snow, le président maléfique de la trilogie originelle, dans ses débuts et dans les débuts des Hunger Games, puisqu'on est à la 10e édition des Hunger Games, et à ce moment-là de l'histoire, les Hunger Games n'intéressent plus personne. Au Capitole, les gens se moquent de regarder ces gamins crasseux des districts et s'entretuer. Voilà, c'est cruel et c'est sans intérêt. Et c'est là que Coriolanus et ses camarades vont être élus mentors. Pour la première fois des Hunger Games, il y aura des mentors aux tribus choisis dans les districts. Donc leur mission à ces mentors, on la connaît dans ce qu'on a vu, nous, de la trilogie originelle. Mais là, on est sur un domaine encore un peu différent, puisque leur première mission, c'est d'abord de rendre attractif pour le public les Hunger Games. Parce que sinon, bah, ils pourraient bien disparaître. Et la volonté politique, ça reste quand même de continuer à punir les districts pour leur rébellion d'il y a 10 ans. Donc on découvre là des autres coulisses de Hunger Games, des coulisses qu'on n'imaginait pas non plus, nous, en tant que lecteurs, parce qu'on était restés sur cette technologie de pointe. Et sans trop vous en dire... Bah, j'ai été frappée, moi, par le décalage du coup qu'il y a entre ce qu'on a connu dans la première trilogie et le film d'aujourd'hui. Le décalage technologique, le décalage marketing, le décalage sociétal même entre cette 10e édition des Hunger Games et celle qu'on connaissait du coup, à savoir les 74e et 75e Hunger Games. Donc, en vrai, le film est un copier-coller du livre, à quelques menus détails près. J'ai même l'impression que c'est un livre qui a été écrit pour le cinéma. Enfin, alors je sais pas, peut-être que parce que j'ai regardé le film d'abord et j'ai lu le livre après, mais on a vraiment l'impression que voilà, le livre a été écrit dans ce but-là, mais en même temps, ça enrichit toujours l'histoire, qui reste très intéressante, parce que si on l'a exécré, ce président Snow, dans la première trilogie, ben là, on arrive à ressentir de l'empathie pour lui, pour son tribu. On comprend aussi pas mal de choses qui ont pu le lier à Katniss, des années plus tard. Et voilà, c'est implicite, c'est subtil, mais ça fonctionne. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que cet opus aurait vu le jour sans l'apport majeur du cinéma sur la trilogie originelle? Voilà, et je n'ai pas de réponse. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis quand vous l'aurez vu et quand vous aurez peut-être lu les livres aussi.
Intéressant. En tout cas, ça donne envie d'aller voir les films. Alors pour notre pause musicale, je vous propose d'écouter la chanson du générique de Mes frères et moi, le premier film de Johan Manka. Mes frères et moi est un film chaleureux et lumineux sur une fratrie tourmentée, mais très attachante, de quatre garçons dans un quartier populaire d'une ville en bord de mer et de la découverte de l'art lyrique par le plus jeune, fan de Pavarotti. Le chanteur et multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Mar Khalife y a signé la BO avec le titre « Yanas », reprise d'une chanson traditionnelle koweïtienne dont il a fait un hymne libertaire et qu'il sublime par sa voix captivante. زماني الغايب على حياة الفرحة الفرحة
Vous écoutez le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Alors, je vais vous parler maintenant d'un roman, très très beau roman de la rentrée littéraire, La colère et l'envie d'Alice Renard. Isor est mutique depuis sa naissance et ne montre aucun signe d'affection. C'est une petite fille qui ne rentre pas dans les cadres. Elle refuse les apprentissages basiques. Son père, dit-elle, elle n'a pas voulu apprendre à parler. Elle a refusé d'apprendre à manger autrement qu'avec les mains. Elle a refusé d'apprendre le dessin, la musique, l'équitation ou quoi que ce soit d'autre. Jamais nous n'avons songé pouvoir l'envoyer à l'école. Ses parents, elle, sapeur-pompier, et lui, laveur de carreaux en altitude, sont désemparés. Ils ont consulté plein de médecins et spécialistes, mais les multiples tests n'ont pas permis de poser un vrai diagnostic. Ils en viennent à adopter un mode de vie autour de leur fille, de ses silences, de ses colères. Ils vivent en huis clos, et c'est un enfermement vécu comme un sacrifice. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont cette situation est exposée. Les voix de la mère et du père alternent pour nous raconter ces 13 premières années. Chacun prend la parole, tour à tour, comme pour se confesser, formant des micro-paragraphes. Des monologues submergés par la frustration de l'incompréhension et l'impuissance. Ce procédé illustre le désarroi, mais aussi la non-communication des deux parents face à cette petite fille murée dans le silence. Et cette construction dynamique nous tient en haleine. Puis, Alice Renard fait surgir l'inattendu. Tout va changer dans la deuxième partie, où Lucien prend la parole et apporte un troisième angle pour raconter Isor et exprimer son émerveillement. Lucien, c'est un voisin qu'ils ne connaissent pas, mais une panne de chauffage contraint les parents à lui confier Isor pour quelques heures. Ce retraité solitaire de 76 ans va d'abord être décontenancé, mais très vite va se nouer une magnifique relation. Et lorsqu'Isor débarque chez lui, c'est pour ne plus le quitter, au grand dam de ses parents qui se sentent lésés. C'est alors l'histoire d'une amitié puissante, d'une complicité miraculeuse entre ces deux êtres esselés. Et cette fusion immédiate est exprimée de la façon la plus simple et de fait la plus touchante qui soit. L'auteur, qui pourtant n'a que 21 ans, a écrit là son premier roman et elle impressionne par sa façon de parler de la vieillesse et par le regard aigu qu'elle pose sur deux êtres si opposés a priori. Isor le révèle à lui-même et semble apprendre de lui. Ils sont comme en connexion. Et petit à petit, on commence à mieux comprendre la jeune fille. Elle ressent les choses très fort, crée un contact direct avec le monde et possède une intelligence émotionnelle extraordinaire. Puis c'est le déclic. La troisième partie ne se raconte pas, elle est à découvrir. Mais je peux vous avancer qu'Isor va surmonter ses handicaps. Sa voix finira par s'exprimer, d'une parole intime et réconciliatrice, absolument bouleversante. Créant son propre langage, infiniment poétique, elle mettra l'accent sur la capacité des mots à dire, à l'expression de soi. L'hypersensibilité de son personnage est perçue non seulement dans la thématique, mais aussi dans la manière d'écrire. C'est saisissant de justesse et terriblement émouvant. Je la cite juste une phrase. « Effranchis les barbelés de l'asphyxie et je vis ce que je suis née, suis grande aujourd'hui, reviendrai vite pour aboutir les promesses. » Isor naît au langage, nous la voyons s'ouvrir à la vie. C'est une histoire de silence et de naissance d'une voix qui met en lumière la magnifique éclosion d'une femme. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau. La brièveté du récit lui confère une intensité remarquable, un concentré de voix très théâtral qui fait vibrer et questionne sans en avoir l'air nos convictions et nos préjugés. C'est une ode à la différence, très optimiste et évidemment très recommandée. Et on va faire place à un très beau roman aussi, « Attaquer la terre et le soleil » de Mathieu Bellesi.
Oui, avec « Attaquer la terre et le soleil », Mathieu Bellesi obtient le prix du livre Inter. C'est vrai que Mathieu Bellesi était salué par la critique depuis plus de 20 ans, mais encore méconnu du grand public. Il livre avec ce roman magistral qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle, et livre un roman majeur. Attaquer la terre et le soleil narre le destin d'une poignée de colons et de soldats pris dans l'enfer de la colonisation algérienne au XIXe siècle. Et en un bref roman, c'est toute l'expérience d'un écrivain qui subitement se cristallise et bouleverse une voix hantée par Faulkner qui se donne. Les conditions rencontrées par les colons à leur arrivée sont déplorables. Ils vont devoir supporter des mois de mauvais temps, vent, pluie, sous des tentes militaires, avant que soient construites des cabanes. Une chaleur extrême va alors s'installer et bientôt l'arrivée du choléra qui va décimer une partie de leur famille et de la colonie. À cela s'ajouteront le travail du sol particulièrement rude, les attaques des lions sur leurs vaches et moutons, les pillages de récoltes par les Arabes et le massacre de ceux qui n'étaient pas assez prudents. Toute la folie et l'enfer que fut cette colonisation sont évoquées dans ce superbe roman avec puissance et réalisme. Une écriture avec peu de points, des retours à la ligne fréquents et sans majuscules, tels des vers libres, apportent force, vie et réalisme au récit. Le roman a été lauréat également du prix du journal Le Monde. Dans ce roman, Mathieu Bellesi s'attache à démontrer la folie des hommes et l'absurdité de la colonisation, rappelant que l'horreur en Algérie n'a pas commencé avec la guerre d'indépendance, comme on pourrait le croire parfois. Je passe la parole à Manu.
Merci beaucoup. Merci aux bibliothèques pour l'invitation. Alors moi, je vais vous parler politique. En fait, alors je rigole, mais oui et non. Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle « Réfugiés climatiques et Castagnette ». Réfugiés... Donc deux réfugiés et deux climats dans une même bande dessinée. On peut se dire juste avant Noël, c'est un peu dur. Mais non, en fait, c'est une très très bonne, très belle bande dessinée de David Rath aux éditions Grand Angle, deux volumes. Alors, soit emprunté aux bibliothèques, mais mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, je l'ai. Ou alors, vous pouvez la trouver dans les bibliothèques pour l'offrir à Noël. En fait, ça part dans un moment où une semaine, on a beaucoup parlé de loi immigration, etc. Là, on est en train de parler des réfugiés, mais des réfugiés à cause du climat et de la montée des eaux. En fait, on se retrouve dans une année qu'on ne connaît pas trop. Alors, elle est peut-être dite, mais... l'Espagne, l'Italie, certains pays, en fait, sont sous l'eau. Donc, l'eau, ça y est, a monté, la banquise a fondu, l'eau a monté. Les pays sont obligés d'accueillir des réfugiés. Alors, j'aime beaucoup le dessin, j'aurais peut-être dû commencer par ça, je suis assez classique dans les bandes dessinées, dans le dessin, et c'est un très 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 beau dessin. Je vais vous lire simplement la phrase qu'on retrouve de l'autre côté. « Quiconque disposant d'un logement suffisamment grand devra héberger un ou plusieurs réfugiés climatiques sous peine de poursuite. » Donc on retrouve en fait un ministère de l'écologie, mais qui est aussi responsable en fait de placer les gens. Et donc, la France se voit obligée, mais comme d'autres pays qui ne sont pas aujourd'hui... alors, on part sur le principe que la France n'est pas sous l'eau, l'Allemagne non plus, puisque d'autres vont en Allemagne. Et le ministère, en fait, analyse les logements de tout le monde et en disant, vous avez une grande maison, et donc, en fonction de la surface de la maison, de la surface des pièces, vous allez pouvoir accueillir tant de personnes. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les personnes âgées avec les personnes âgées, pour éviter certainement d'autres soucis. Et donc, en fait, il y a des bus entiers qui arrivent et on voit des gens qui viennent sonner à 22h en disant avec un représentant du ministère, voilà la personne que vous allez accueillir. C'est une obligation sous peine de poursuite. Et puis, très rapidement, on va parler de racisme, on va parler d'opposition, on va parler de ceux qui font tout pour éviter d'accueillir. C'est une très très belle bande dessinée, mais qui fait réfléchir parce que la montée des eaux est une réalité. Et là, on est en train de parler non pas de réfugiés pour des questions d'argent, de réfugiés pour des guerres, on est en train de parler de réfugiés climatiques. Et à un moment donné, d'avoir une obligation effectivement d'accueillir sur un territoire des personnes qui de toute façon se retrouvent complètement sous l'eau. Et on voit même d'ailleurs... sur des images, puisque ça se passe à Paris, même Paris sous l'eau, où à un moment donné, on dira, demain, t'en fais pas, on pourra directement de la Tour Eiffel aller pêcher, vu la quantité d'eau qui tombe. Voilà, donc, un beau cadeau de Noël, deux volumes de cette belle bande dessinée. Et le titre, parle de lui-même. Castagnette permet de rapidement savoir qu'on va parler de l'Espagne, mais voilà, ça parle de réfugiés, ça parle de climat, réfugiés climatiques en deux volumes.
Merci beaucoup, Manu.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Nous arrivons au terme de cette émission. Pour vous présenter les prochaines animations de la bibliothèque, mardi 2 janvier, Belligeux, venez jouer aux jeux de société, c'est pour les adultes plutôt, à partir de 20h30. Samedi 6 janvier, les Petits Socratiques, le Café Philo sur le mystère et transparence à 17h à la bibliothèque Saint-Corneille. Vendredi 12 janvier, dans le cadre du festival Parole, la bibliothèque vous propose une rencontre avec Philippe Labro à partir de 18h. Vendredi 19, le prochain ciné-club sera autour du film Fureur Apache de Robert Aldrich. Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque Saint-Corneille est le samedi 20 janvier à 11h. Et pour notre émission de radio sur Graphite, vendredi 26 janvier à 18h. D'ici là, nous vous souhaitons de très très bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année.